There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
L'année 2026 marque un jalon historique majeur avec 40 ans de CUTFM et Potpourri Show. Une année avec des événements, des colloques, des débats, des rencontres littéraires, des concerts et des émissions en direct sur les campus et chez nos partenaires de toujours. Des moments privilégiés pour célébrer l'histoire et l'avenir de CUTFM et de Potpourri Show. Si vous souhaitez participer à nos événements tout au long de 2026, veuillez nous écrire à potpourri@cut.fm.
De 11h à 13h, Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarii. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres, et livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur CUT 89,5 FM et Potpourri Show. Le printemps est enfin arrivé et avec lui des offres incroyables dans le cadre de notre 40e anniversaire. Chaque dimanche, toute l'équipe de la radio vous propose une programmation exceptionnelle. Vous y découvrirez d'autres points de vue sur le monde et plus de récits captivants provenant des pays de la francophonie. Ce printemps, faites-le plein d'énergie chez nous grâce à nos DJ médias partenaires. Inscrivez-vous et devenez membre lors de notre campagne de financement du printemps. www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas de mentionner votre émission préférée, Potpourri Show. Pour en savoir plus sur nos règles de diffusion en ligne, notamment sur le rattrapage ou la disponibilité de nos émissions à l'extérieur du Canada, ou pour toute autre question sur nos offres de partenariat, veuillez nous écrire à potpourri@cut.fm ou consulter notre site web potpourrishow.com. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon printemps. Aussi dans cette émission, c'était la grande nouvelle de la semaine qui a tenu la planète en haleine. Céline Dion est de retour sur scène à Paris pour 10 shows exceptionnels. Tout au long du printemps, découvrez l'histoire et les secrets de cette icône et femme de cœur avec qui j'ai partagé la scène lors de la visite de Jean-Paul II à Montréal. Oui, oui, j'ai chanté avec Céline Dion, elle n'avait que 15 ans. Rendez-vous, madame, monsieur, chaque dimanche, en compagnie des journalistes et des DJ du Québec et de France, et courez la chance de gagner une paire de billets à un des 10 concerts à Paris. Céline Dion, la diva, est de retour.
Rien ne me fait plus plaisir que quand les copines me disent « On t'a vu à la télé ? T'étais vachement mignonne !»
Isabelle Mergault, les causes de sa mort dévoilées, un cancer récent et une maladie de longue date évoquée. La comédienne est morte ce vendredi 20 mars 2026 au matin des suites d'un cancer, annoncé sa famille dans un communiqué. Son élocution et son sens de l'humour étaient légendaires. La comédienne, réalisatrice et sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, Isabelle Mergault, est morte ce vendredi 20 mars 2026 au matin.
Le monde du spectacle, du théâtre et du cinéma français est en deuil. Isabelle Mergault, actrice, réalisatrice et chroniqueuse emblématique de l'émission des Grosses Têtes sur RTL chaque jour, s'est éteinte le 20 mars 2026 à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du poumon. Ses obsèques ont eu lieu lundi 30 mars lors d'une cérémonie laïque ouverte au public sous la coupole du cimetière du Père Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris. L'émotion était palpable. Autour de sa famille, notamment de son compagnon et ses deux filles adoptives d'origine africaine, Maya, 17 ans, et Iris, 12 ans, encadrant un portrait de l'actrice souriante, de nombreuses figures du paysage médiatique avaient fait le déplacement. Fidèle à son caractère, la comédienne avait souhaité un dernier hommage sans mise en scène, ouvert à tous, dans une atmosphère sans artifice. Ce dimanche, Popourri Show rend hommage à cette grande actrice hors norme que j'ai suivie depuis plus de 20 ans. Je vous propose un montage des meilleures séquences, des meilleurs moments de la vie d'Isabelle Mergault. Que la terre lui soit légère. CUT-FM, votre radio.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL.
Bonjour, une émission des grosses têtes spéciales aujourd'hui jusqu'à 18h évidemment, puisque nous allons rendre hommage à Isabelle Mergault. Et comment ne pas faire mieux qu'en commençant par cette citation qui a dit « Dans la vie, ce n'est pas comme au théâtre, on ne fait pas tomber le rideau comme on veut. »
Sacha Guitry.
Sacha Guitry.
Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait, riait. Et ces rires me rendaient triste. Mais la vie n'est pas une scène, et souvent, j'avais de la peine. Et les gens riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu 20 ans. Je suis partie chez mes parents. Tous mes copains riaient, riaient. Et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troupier d'une opérette. Et les gens riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Et puis un jour, j'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Et le gars riait, riait. Et ses rires m'ont rendu triste. Je me disais, ça bat trop de veine. Et puis j'ai eu beaucoup de la peine. Les gens riaient de me voir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Puis un jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Le public me riait, riait. Et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et quelquefois, quand je repense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureuse, heureuse comme ça. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureuse, heureuse comme ça.
Isabelle Mergault.
Je sais qu'il y a le karaoké.
Bon, bah alors, allez-y.
Ah, mais je rêve. Et ben quoi, on n'est pas couché. La pluie. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.
La seule voiture garée où les pigeons viennent chier sur moi. La seule voiture.
Mais oui. Par contre, t'as vu tes cheveux, t'avais laissé le toit ouvrant. Hein. Ah bah.
Après plusieurs rôles au cinéma, notamment dans le film Prof en 1985, vous vous en souvenez sans doute, elle jouait une enseignante complètement lunatique. Isabelle Mergault intègre donc cette famille, cette grande famille des grosses têtes en 1988 et elle y devient très vite une figure incontournable.
Elle est devenue vite la voix, on va dire, féminine, peut-être la plus connue de RTL depuis la fin des années 80, parce que moi, la première fois que j'entends Isabelle Mergault et que je mets même un nom sur cette voix, c'est aux grosses têtes de Philippe Bouvard, évidemment, quand il l'engage à la fin des années 80. Et tout de suite, je me dis, il me la faut. Elle ne mesurait pas sa popularité, elle ne la mesurait pas. Elle n'avait pas, justement, la grosse tête, même si c'était la reine des grosses têtes.
Et on entend l'émotion de Laurent Ruquier, émotion partagée par ses camarades sociétaires des grosses têtes.
Elle m'a toujours énormément fait rire. C'est quelqu'un que j'aimais profondément. Pardon, mais je suis vraiment bouleversé, en fait. C'était quelqu'un d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une drôlerie, d'une autodérision absolument incroyable.
C'est très, très brutal, quoi. C'était une complice. Elle était tellement drôle, quoi. Elle est tellement drôle parce qu'elle va nous habiter tout le temps.
Artiste touche à tout, c'est derrière la caméra qu'Isabelle Mergault connaît finalement son plus grand succès, son premier film Je vous trouve très beau avec Michel Blanc cartonne au cinéma, plus de 3,5 millions de spectateurs et un César, celui du meilleur premier film, c'était en 2007.
Le César est attribué à Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergault.
C'est mon premier film. Tout le monde est vachement gentil avec moi. Ils m'attendent pas au tournant en se disant « Ah tiens, on va voir ce qu'elle est capable de faire, celle-là, elle a jamais fait cette preuve avant et tout. » Non, ça se passe vraiment bien et je suis très content.
Et je vous précise que Je vous trouve très beau, justement, sera diffusé lundi soir sur France 3, 21h10. Isabelle Mergault avait 67 ans.
Et on a une pensée pour les deux filles d'Isabelle Mergault, Maya et Iris.
Le monde du spectacle, du théâtre et du cinéma français est en deuil. Isabelle Mergault, actrice, réalisatrice et chroniqueuse emblématique de l'émission des grosses têtes sur RTL chaque jour, s'est éteinte le 20 mars 2026 à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du poumon.
C'est trois clients qui s'attablent dans un restaurant. Quand le patron vient prendre la commande, l'un d'eux lui lance. Je peux vous dire ce qu'il y avait hier dans ces trois assiettes. Oh, monsieur, fait le patron, nos assiettes sont impeccablement lavées en machine et essuyées. Oh, j'en doute pas, mais j'ai un odorat exceptionnel. Ouais, c'est impossible. Si vous y arrivez, je vous offre le déjeuner à tous les trois. Alors, l'autre prend la première assiette et la sent. Escalope milanaise, il flaire. La deuxième, rougelet à la provençale. Puis la troisième, choucroute alsacienne. Alors là, monsieur, fait le patron, vous êtes stupéfiant. C'était effectivement nos trois plats du jour, vous avez gagné. Le lendemain, les trois clients reviennent. On fait quitte double? D'accord, dit le restaurateur, je vais chercher les assiettes. Alors il passe dans la cuisine et dit à la jeune femme qui est au fourneau, Josette, ne cherchez pas à comprendre, hein. Prenez cette assiette et frottez-la contre votre œuf. Aux fournettes. La nommée Josette s'exécute et le patron ramène trois assiettes, dont celle-là. Le client flaire la première, bœuf bourguignon. Il sent la seconde, canard au poivre vert. Et enfin la troisième, il a l'air surpris, la renifle de nouveau et dit au patron, Josette travaille chez vous.
Ah, elle est bien, elle est super. Tout un dimanche. Ah, Isabelle.
C'est génial, c'est le même rouge.
Oui, absolument. Oui, c'est bien.
Hein. Je suis assortie.
T'es assortie. T'es assortie et je suis déjà contagieux. Même les barésies noires vont bien avec.
Tout va bien, hein. Tout moi va je bien. Me sens t'es... bien là. Hein.
Isabelle. Enfin veuve, enfin, c'est pas d'elle qu'il s'agit, hein. C'est le titre de son film qui nous vaut sa visite. On va passer près de 3 heures avec elle puisqu'elle reviendra tout à l'heure. Alors, ma petite Isabelle, tu vas savoir comme l'équipe est contente que tu sois là.
Ah bah, ça fait plaisir.
On a vu le film et tu vas avoir la visite de gens que tu aimes, donc t'es vraiment chez toi. Tu te souviens du 11 mai, je sais pas donner la date, à Aubervilliers, car t'es né à 11 mai.
Je suis née à 11 mai, mais je ne suis pas née à Aubervilliers. Je suis née à Paris dans le 14e et après, j'ai tout de suite été à Aubervilliers. J'avais une semaine, quoi.
Et tu n'as aucun souvenir de cette journée?
Non, je m'en rappelle pas bien.
Non, maternité, non. Aucun souvenir.
Non. 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 Je sais que c'était une césarienne, m'a dit ma mère.
C'est vrai.
Parce que j'étais gros. J'étais un gros bébé, je devais faire 4 kilos et quelques. Et ma mère, c'était une toute petite chose. Et voilà, c'est tout ce dont je me souviens.
Ta maman était une petite chose et ton papa était très baraqué.
Oui, voilà, c'était. D'ailleurs, il disait à ma mère, t'es vraiment ma moitié. Parce que ma mère faisait 42 kilos et lui 84.
Waouh! Voilà. C'est pas lui qui t'a accouché, ton papa? Il aurait pu.
Ah non, il n'était pas accoucheur, il était chirurgien.
Il aurait pu, hein?
Il m'a opéré après. Ah. 10 ans plus tard, il m'a opéré de l'appendicite.
Tu n'es pas fille unique?
Non, j'ai un petit frère et une grande sœur. Je suis au milieu, moi.
Qu'est-ce qu'ils font, le frère et la sœur?
Bah, mon frère est médecin et.
Ah, oui.
Ouais, c'est un bon médecin. Et ma sœur, elle donne des cours de piano.
Et toi, t'as pas voulu...
Faire médecine?
Oui.
Ah non, j'étais pas du tout douée pour les études.
Non.
Je voulais pas faire grand-chose, en fait. Je voulais juste gagner un peu ma vie pour être autonome. Donc, j'ai été secrétaire sténodactylo. Et...
On va y venir un petit peu plus tard. Mais t'avais la langue bien pendue, petite. Tu sais qui m'a dit ça?
J'avais un défaut de prononciation, surtout.
Oui, mais tu sais qui nous a dit ça?
Ma mère.
C'est ta maman. T'as une maman.
Ah ouais?
C'est Florence Fessat qui l'a rencontrée. Écoute un peu ce qu'elle nous a dit.
Isabelle était une petite fille très rigolote, qui aimait beaucoup la plaisanterie, qui avait son petit caractère. Hein. Elle a parlé très très tôt, à 18 mois, elle faisait des phrases. Et un jour, la petite aide familiale qui s'occupait d'elle lui dit « Oh, écoute, Isabelle, tu me saoules avec tes discours. » Isabelle avait que l'âge de 2 ans, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Tu manges de la bouillie en parlant, ne comprends rien à ce que tu dis, avec ton cheveu sur la langue. Alors Isabelle se précipite dans le couloir, il y avait une grande glace, tire la langue devant la glace et dit « Non, j'ai pas de cheveux sur la langue. » C'était une comédienne année, oui, oui, oui. Elle se regardait dans la glace en prenant des pauses, vous voyez, par exemple. Elle se regardait pleurer. Elle se forçait à pleurer, puis elle chantait beaucoup. Et pour scandaliser le pays, qui était très... C'était pas petit bourgeois, c'était plutôt campagnard. Mais enfin, elle se défilait dans les rues en chantant « Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... » Voilà. Alors, ma mère me dit « Écoute, dis à ta fille d'arrêter parce que vraiment, les voisins me font des réflexions.
» Mais vous, ça vous amusait tout ça?
Moi, ça m'amusait. Moi, ça me faisait rire. Bon. Scandaliser un peu les gens, c'est pas très méchant, quoi. C'était une élève absolument exécrable, très, très vive, elle comprenait tout très vite, mais n'en faisait qu'à sa tête, et elle faisait le clown perpétuellement à l'école. Elle a fini par se faire renvoyer du lycée. Après ça, elle a fait toutes les écoles libres avec tous les saints du paradis. Il y a eu Sainte-Marthe à Pantin, il y a eu Sainte-Agnès où elle était... pensionnaire parce qu'on en avait marre, et puis qu'elle était contente d'être pensionnaire. Enfin, elle a fait comme ça qu'à 5 écoles. Finalement, elle a eu son bac. Il y avait une épreuve d'histoire-géographie. Elle était, comme moi, allergique à l'histoire et à la géographie. Oh, le lycée ne m'intéresse pas. Elle a déchiré la feuille, elle l'a foutue dans la corbeille à papier et elle est sortie de l'école. 8 jours après, elle reçoit un papier. « Nous sommes désolés, mademoiselle Mergot, nous avons égaré votre copie. Pour pas vous ennuyer trop, venez passer un oral de rattrapage. » Alors, elle arrive à l'oral de rattrapage devant un grand jeune homme, tout jeune professeur, qui dit « Bonjour, mademoiselle. » Il se sautait. Elle dit « Bonjour, monsieur. » Il se regarde, il s'éclate de rire tous les deux. Il lui a posé une ou deux questions vagues sur la géographie du coin de préférence. Puis il a dit « C'est très, très bien. » Il a dû lui mettre 18 sur 20. Voyons en quoi elle a été reçue. Vous voyez, elle avait en plus une veine incroyable.
Aujourd'hui, quel regard vous portez sur sa carrière?
Je trouve qu'elle a quand même bien marché, mais pas très vite. Hein. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle se soit obstinée dans ce métier. Et puis qu'elle ait réussi, c'est quand même. Parce que c'est pas évident de réussir là-dedans. Elle est très, très, très indépendante, c'est surtout ça. Très courageuse, elle fonce, elle a peur de rien. Il faut dire qu'on lui dit tout le temps, si quelque chose te plaît, tu fonces, tu verras bien après.
Qu'est-ce qui vous touche le plus chez Isabelle?
C'est que je voudrais qu'elle soit heureuse et que je voudrais la protéger plus, quoi. Mais on ne peut plus protéger les enfants à un certain âge. Hein. Je ne parle pas beaucoup avec elle. Puis je vais vous dire maintenant qu'elle a tel succès m'intimide.
Merci beaucoup.
Merci Geneviève. Geneviève, qui habite du côté de La Rochelle maintenant.
Oui, en Charente-Maritime.
Charente-Maritime.
Mais elle aussi, elle avait un petit défaut de prononciation, ma mère.
Oui.
Mais elle s'est corrigée, mais elle avait le même que moi, mais en plus ténu, quoi.
C'est quand même pas banal, tu passes un oral de rattrapage et le prof a un feu sur la langue.
Ouais. J'aurais dû l'épouser.
Ouais. Bon, après les études rapides, qu'est-ce que tu fais dans une école de sténodactylo?
Ben, je voulais, comme dit maman, je voulais être indépendante. Je voulais dépendre de personne.
Gagner ta vie.
Gagner ma vie, dépendre de personne. Et je savais que c'était l'argent qui vous donne la liberté.
Oui.
Donc, j'ai fait j'ai appris la sténo très vite pour être dans une agence d'intérim et puis faire secrétaire. Voilà, et donc je gagnais ma vie, j'étais contente. J'étais pas affiliée à une boîte spécialement. Je partais en mission 3 jours, je me reposais. Voilà. Et puis un jour, j'ai été dans un cours du soir d'art dramatique.
Mais pas eu les Beaux-Arts, hein? T'es pas passé au Beaux-Arts?
Un mois à Beaux-Arts.
Un mois à Beaux-Arts.
Ouais. Je m'étais trompée d'année dans l'inscription et je me retrouvais en troisième année alors que je devais être en première. Je comprenais rien. Je me disais vraiment, je suis pas faite pour les études. Je suis vraiment trop bête. Mais bon, je sais pas, il y avait eu un truc à l'inscription et tout. Donc je suis restée que un mois. Mais j'étais pas vraiment attirée par les arts.
Mais le cours Florent, le théâtre, oui, pourquoi, comme ça?
Mais je savais pas quoi faire de trop, par curiosité. Et j'ai travaillé tout de suite, j'ai tout de suite eu un rôle.
En général, quand on va dans un cours, c'est souvent pour accompagner un copain ou une copine.
Ben oui, mais c'était ça, c'était une copine qui était au Beaux-Arts avec moi.
Ah ouais.
Donc on allait au cours du soir ensemble, puis voilà, et puis j'ai travaillé tout de suite.
Alors, on va voir tes débuts au cinéma, parce qu'en revoyant sur la table de montage un peu ta carrière, je me suis aperçu que tu as fait des apparitions dans des films qui ont très bien marché dans les années 85, Prof, et puis Les Géniales Papy, il y avait Bedos d'ailleurs qu'on va retrouver ce soir, il y avait Olivier et Goliath aussi, Une nuit à l'Assemblée Nationale, de Mocky, avec Jacqueline Maillan, donc tu reprends le rôle croque-monsieur des années après, c'est drôle, Les Clés du Paradis avec Junio, mais tu as dit que tu détestes jouer devant une caméra. La caméra, t'aimes bien être derrière, puisque tu mets en scène maintenant. Le théâtre, c'est ton truc. Mais être actrice devant une caméra, c'est pas ton truc.
Non, mais je l'ai jamais aimé. Quand j'ai commencé mon premier film, je faisais une prostituée dans La Dérobade.
Oui.
Et en fait, j'ai continué parce que quand j'ai été payée de cette journée-là, j'ai vu que j'étais payée beaucoup plus que quand j'étais secrétaire.
Oui.
Alors, c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui. Puisque moi, le but, c'était de gagner de l'argent pour être libre.
Ouais.
Et donc, j'ai arrêté secrétaire tout de suite. Mais je faisais ça que pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais été attirée par ces lumières, par tout ça. Je suis assez traqueuse. J'avais un peu le trac devant la caméra et tout. Et donc, c'est pour ça que ma carrière, j'ai des rôles, des petits rôles. Généralement, c'est dénudé. Et à chaque fois qu'il fallait prendre une douche, c'était moi qui m'y collais. Donc, voilà. Et mes copains me disaient, mais t'es folle d'accepter tout ça. Tu fous ta carrière en l'air, tu n'arriveras à rien. Et je disais, mais je veux arriver à... Je veux rien. Donc, je ne foutais rien de carrière. Je n'avais pas de plan de carrière.
T'arrives à rien alors que je veux rien, c'est rien.
C'était l'idéal même. C'était une réussite. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai continué.
Alors, ces deux copains vampires qui vont se coucher, et alors, ils vont dans leur cercueil, et il y en a un des deux qui est... Alors, ils vont se coucher avant que le jour arrive, hein, comme tous les vampires, et il y en a un des deux qui dit, oh là là, non, je peux pas dormir, j'ai pas eu mon content de sang aujourd'hui, vraiment, ça me manque, il me faut du sang. Et son copain lui dit, mais t'as plus le temps maintenant, regarde, le jour va se lever, faut pas que tu sortes, tu vas être coincé et tout, non, reste là. Et l'autre, il dit, non, il me faut du sang. Il sort du cercueil, et il sort du cercueil. Et puis, quelques minutes plus tard, il revient, alors que le jour commençait à poindre. Et il arrive, et puis il est tout dégoulinant de sang. Et son copain, il est vachement étonné, parce qu'il se demande où est-ce qu'il a eu autant de sang comme ça, en quelques minutes. Et il le voit arriver, tout dégoulinant comme ça, de sang. Et oui, je sais, ok, mais je suis reflétue. Elle est fraîche hein, dans ma tête. Donc, il le voit arriver tout dégoulinant de sang.
Avant que le jour ne pointe.
Et puis, il lui dit, mais
Mais où t'as trouvé tout ce sang? Mais pourquoi t'es revenu comme ça avec autant de sang? Et alors, le copain vampire, hein, donc, lui dit, tu vois, je suis sorti du cercueil, oui, j'ai pris la petite route, oui. C'est frais dans ma tête. Et tu vois le poteau? Oui, et ben moi, je ne l'ai pas vu.
Alors le film, c'était une petite brève dans Le Parisien, où il y avait un Belge qui est sorti de prison, il avait son bracelet électronique.
Elle est morte dans le silence. Mais la vérité, c'est qu'elle avait disparu bien avant. Le 21 mars 2026, au petit matin, dans un appartement discret de Neuilly-sur-Seine, une vie s'est éteinte sans bruit. Pas de caméra, pas de foule, pas de ce tumulte habituel qui accompagne les grandes figures lorsqu'elles quittent ce monde. Quelques heures plus tard, l'information tombe, sobre, presque froide, Isabelle Mergault est morte, à 67 ans, emportée par un cancer. Une annonce transmise, relayée, puis absorbée par le flux continu des nouvelles. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Dites-moi, vous souvenez-vous du moment exact où vous avez appris sa disparition? Ou bien est-ce une information qui vous a simplement traversé sans s'arrêter? Parce que c'est peut-être là que commence le véritable vertige. Car ce jour-là, la France n'a pas seulement perdu une actrice, une voix, une présence familière. Elle a perdu quelque chose de plus difficile à nommer. Une manière d'exister, à la fois vive, tranchante, presque irrévérencieuse, et pourtant profondément humaine. Une femme qui ne cherchait pas à plaire, mais qui touchait malgré elle. Une femme qui n'expliquait pas tout, mais qui disait l'essentiel. Et alors une question s'impose, plus dérangeante encore que la mort elle-même. Comment peut-on passer d'une présence aussi forte à une disparition presque invisible? Dans les années 90, puis au début des années 2000, Isabelle Mergault n'était pas simplement connue, elle était attendue. Sa voix à la radio précédait souvent son arrivée, son rire coupait court au silence. Elle avait cette capacité rare de dire ce que les autres n'osaient pas formuler, avec une spontanéité presque brutale, mais jamais gratuite. On ne l'écoutait pas seulement pour rire, on l'écoutait parce qu'elle était vraie. Et dans un monde où tout commence déjà à se lisser, à se calibrer, à se contrôler, cette vérité-là avait quelque chose de précieux, presque fragile. Mais derrière cette énergie indomptable, derrière cette liberté apparente, il y avait déjà un autre mouvement, plus discret, plus difficile à percevoir. Une forme de retrait. Pas une disparition brutale, pas un scandale, pas une chute, non, juste une distance. Comme si, une fois les projecteurs éteints, la femme que l'on croyait connaître cessait immédiatement d'exister, comme si ce que le public voyait n'était qu'un fragment soigneusement offert, jamais l'ensemble. Et avec le temps, cette distance n'a pas diminué, elle s'est installée, elle est devenue une habitude, presque une signature invisible. Alors aujourd'hui, face à cette disparition silencieuse, une autre question surgit, plus troublante encore. Et si Isabelle Mergault n'avait jamais vraiment disparu par accident? Et si, depuis le début, elle avait déjà commencé à s'effacer, lentement, volontairement, sous nos yeux? Parce qu'il y a quelque chose de plus inquiétant que la mort elle-même. C'est le moment où quelqu'un cesse de déranger, le moment où une voix cesse d'être attendue, le moment où l'absence ne crée plus de vide. Et si ce moment était arrivé, bien avant le 21 mars 2026, mais pour comprendre comment une femme aussi libre a pu glisser hors du regard sans faire de bruit, il faut revenir à l'époque où tout semblait encore possible, à cette période où sa voix ne laissait personne indifférent. Avant le silence, il y avait une voix. Pas une voix lisse, pas une voix que l'on oublie après l'avoir entendue. Une voix qui coupait net le rythme d'une émission, qui forçait l'attention, qui dérangeait presque autant qu'elle séduisait. Si vous allumiez la radio au tournant des années 90, il suffisait de quelques secondes pour la reconnaître. Isabelle Mergault n'entrait pas dans une conversation, elle l'apprenait. Elle ne cherchait pas à trouver sa place, elle imposait la sienne. Elle parlait vite, parfois trop vite, elle riait avant même d'avoir terminé sa phrase. Elle osait dire ce que les autres contournaient, avec cette désinvolture qui pouvait passer pour de l'irrévérence, mais qui, au fond, sonnait comme une forme rare de sincérité. On ne l'écoutait pas seulement pour se divertir. On l'écoutait parce qu'elle donnait l'impression de ne jamais tricher. Et dans un univers médiatique déjà en train de se transformer, cette authenticité avait quelque chose de précieux, presque d'inconfortable. Car pendant que le public riait, pendant que les audiences confirmait son succès, quelque chose d'autre se mettait en place, lentement, sans bruit. Le paysage changeait, les émissions devenaient plus cadrées, plus rythmées, plus efficaces. On ne laissait plus autant de place à l'imprévu, on attendait des interventions courtes, calibrées, immédiatement compréhensibles. Le naturel, peu à peu, devait devenir une performance maîtrisée. Et c'est là que le décalage commence à apparaître. Pas comme une rupture visible, pas comme un rejet brutal, rien de tout cela. Au contraire, tout semblait continuer normalement. Isabelle Mergault était toujours là, toujours invitée, toujours capable de faire rire, toujours reconnue. Mais si l'on regarde de plus près, quelque chose se resserre autour d'elle. Un cadre plus étroit, une marge de manœuvre qui diminue imperceptiblement. Elle, pourtant, ne change pas. Elle ne ralentit pas pour entrer dans le format. Elle ne polit pas ses mots pour correspondre aux attentes. Elle ne transforme pas sa spontanéité en produit. Elle reste fidèle à ce qu'elle est, à cette manière directe, presque brute, d'exister à l'antenne. Et ce choix, qui autrefois faisait sa force, commence à devenir une anomalie dans un système qui valorise de plus en plus le contrôle. C'est un glissement subtil, une présence un peu moins fréquente, des interventions un peu plus courtes, des espaces où elle n'apparaît plus. Rien qui justifie une alerte, rien qui déclenche un article, rien qui attire vraiment l'attention. Mais une sensation diffuse s'installe, comme si quelque chose ne trouvait plus tout à fait sa place. Et au milieu de cette transformation, une forme de fatigue apparaît, difficile à nommer. Pas une fatigue spectaculaire, pas un épuisement visible, plutôt une usure silencieuse, celle qui naît lorsque le monde autour de vous avance dans une direction que vous ne souhaitez pas suivre. Continuez, oui, mais à condition de ne pas se perdre en chemin. C'est là toute la singularité de sa trajectoire. Elle ne disparaît pas, elle ne s'effondre pas, elle ne provoque aucun scandale, elle ne se bat même pas ouvertement contre ce qui change. Elle avance, mais à sa manière, en refusant d'adopter les règles implicites qui s'imposent peu à peu à tous les autres. Et cette position, presque invisible, crée une tension étrange. Car à force de ne pas s'adapter, sans même le revendiquer, elle se met doucement en décalage. Non pas avec le public, qui continue de l'apprécier, mais avec un système qui redéfinit sans cesse les conditions de la visibilité. Alors une question commence à émerger, discrètement, presque à son insu. Peut-on rester soi-même dans un monde qui ne valorise plus ce que l'on est naturellement? Et surtout, que se passe-t-il lorsque l'on choisit de ne pas répondre à cette transformation? Car ce qui est en train de se jouer ici ne ressemble pas à un déclin classique. Ce n'est pas une perte de talent, ni une chute brutale. C'est autre chose, une forme de déplacement progressif, comme si elle s'éloignait légèrement du centre, sans jamais vraiment quitter la scène. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que tout semble encore possible, alors que rien n'est encore définitivement perdu, qu'un événement inattendu va venir bouleverser cette trajectoire. Un succès réel, tangible, incontestable, celui qui aurait dû la replacer au cœur du jeu. Mais ce succès, contre toute logique, ne va rien changer. En 2005, tout s'aligne. Un film, une salle obscure, un public qui ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. Et puis, peu à peu, quelque chose se passe. Je vous trouve très beau touche, surprend, émeut. Le succès est là, réel, inattendu même. Les critiques s'écrivent, les spectateurs en parlent, les chiffres confirment. Pour beaucoup, c'est le moment clé. Celui où une carrière bascule, celui où l'on change de dimension. Dites-moi, combien d'artistes attendent toute une vie ce moment précis? Ce point de bascule où tout devient possible. Plus de visibilité, plus de projets, plus de reconnaissance. Et pourtant, rien ne se passe comme prévu. Isabelle Mergault ne se précipite pas. Elle ne multiplie pas les apparitions. Elle ne capitalise pas agressivement sur ce succès. Elle ne transforme pas cette victoire en stratégie. Là où d'autres auraient enchaîné interviews, plateaux, nouveaux projets, elle ralentit. Ou plutôt, elle continue. Mais autrement. C'est presque imperceptible au début. Elle est toujours là, bien sûr. Elle travaille, elle écrit, elle joue. Mais il n'y a pas cette accélération attendue, ce mouvement naturel qui pousse à exploiter chaque opportunité tant qu'elle est encore chaude, comme si, au fond, ce succès ne changeait rien à ce qu'elle était déjà en train de devenir. Et c'est là que quelque chose commence à déranger. Parce que dans ce milieu, le succès n'est pas seulement une récompense, c'est une obligation, une invitation à exister davantage, à occuper plus d'espace, à devenir un contre.
Rien ne me fait plus plaisir que quand les copines me disent « On t'a vu à la télé ?» T'étais vachement mignonne.
Isabelle Mergault, les causes de sa mort dévoilées, un cancer récent et une maladie de longue date évoquée. La comédienne est morte ce vendredi 20 mars 2026 au matin des suites d'un cancer, annonçait sa famille dans un communiqué. Son élocution et son sens de l'humour étaient légendaires. La comédienne, réalisatrice et sociétaire des Grosses Têtes sur RTL, Isabelle Mergault, est morte ce vendredi 20 mars 2026 au matin.
Je me suis mentalisée. Tu veux que je tue ? Je tuerai.
Engager sa maîtresse pour tuer sa femme.
Et après, plus rien ne pourra nous séparer, hein, mon amour.
Est-ce vraiment une bonne idée ?
Dis donc, alors, plein suicide, ta femme, qu'est-ce que je fais ? Tu poses ce téléphone et tu mets les mains en l'air !
Je peux lever le bras, je suis pas épilé.
Tu ne dois laisser aucune trace. Parle pas trop, la salive aussi, on peut la retrouver.
Dis tout de suite que je crache quand je parle !
Je te rappelle que c'est moi la cocu, c'est pas toi.
Avec Isabelle Mergault et Chantal Latsou, rien ne se passe jamais comme prévu.
Oh,
Adieu je reste, c'est sur C8.
On sait qu'avec Isabelle Mergault, vous étiez très amie. Elle nous a quittés...
Parle d'Isabelle, ça va être terrible.
Elle nous a quittés il y a quelques jours. On a été aussi très très touchés. On imagine que toi aussi.
Bien sûr.
Elle s'était confiée à toi sur sa maladie et sur d'autres choses.
Alors,
que vous avez
partagées. Elle ne voulait pas le dire à personne. Et avec moi, on avait des rapports profonds, mais très toujours dans l'amusement, toujours dans la gaudriole, toujours dans... Et on parlait sérieusement aussi. On pouvait parler de tout avec Isabelle. C'est une femme intelligente. Elle était très ouverte sur tout. Et on avait des conversations quelquefois qui duraient 2 heures au téléphone. Et on avait parlé de tout. On avait, voilà, fait un tour de tout, de tout. Et on avait un projet de pièce ensemble. Et elle voulait surtout pas me dire que c'était grave. Elle m'avait dit juste qu'elle s'était fait opérer des cordes vocales, qu'elle pouvait pas parler. Et on avait un projet de pièce qu'on avait signé en plus. Et voilà, elle me l'avait envoyé. Et elle était, j'ai dit, mais tu sais, si tu te sens pas bien, c'est pas grave la date. On peut la reculer. Moi, c'est pas grave. Ça me gêne pas. Mais non, mais en septembre, je serai très en forme. Elle me l'avait dit.
Ah ouais.
Quand elle avait sa voix, quand j'ai eu 10 jours, il y a 10 jours, elle avait une voix très faible. Et elle me l'avait dit, mais en septembre, je serai en forme. Donc elle voulait pas dire, c'était un peu sa lumière, je pense. C'était son espoir, parce que elle adorait, je crois que ce qu'elle préférait, c'était jouer sur scène, il faut dire que on s'amusait beaucoup.
Le 6-9 sur Énergie, tous les matins, 6h-9h.
Et il arrive quand ? Quoi ? Aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, comment ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, lui ? Enfin, monsieur, on n'avertit pas les gens comme ça au dernier moment ? Qu'est-ce que je vais dire, moi, à ma famille, aux commerçants ? Non, j'ai pas dit que mon mari était en prison. J'ai une réputation à tenir, j'ai dit qu'il était dans le coma. Hein? Ouais, bah, excusez-moi, mais c'est quand même plus élégant. Enfin, franchement, vous auriez pu prévenir que je me prépare psychologiquement. Quoi ? Une lettre recommandée, quand ? Ouais, c'est possible. De toute façon, je vais jamais chercher les lettres recommandées. Eh ben, parce que ça m'angoisse, figurez-vous. Avec leur accusé de réception, en plus... Je suis accusé de rien, moi, pas comme l'autre, hein. Puis d'abord, pourquoi il viendrait ici ? Ça fait 18 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans cette maison. Il est hors de question qu'il vienne chez moi, hein. Ah non, monsieur. Ce n'est plus chez lui ici, c'est chez moi.
La femme la plus drôle que j'ai jamais rencontrée, c'est le meilleur résumé.
Elle aurait pas aimé ça, Isabelle. Elle aurait aimé qu'on rigole.
Mission des Grosses Têtes spéciales aujourd'hui jusqu'à 18h, évidemment. Puisque nous allons rendre hommage à Isabelle Mergault.
Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça.
Et j'avais demandé à Isabelle de m'interpréter cette chanson de Fernandel, parce que je trouvais que c'était une chanson qui résumait tellement ce qu'elle était. Elle était tellement bouleversante quand elle chantait cette chanson.
En tout, Isabelle Mergault aura passé 22 ans aux Grosses Têtes. Ses camarades ont des tonnes de souvenirs avec elle. Ils en ont livré une partie à nos reporters.
Maman, elle a dit, ouais, ça y est, je vais être végétarienne. Et puis au bout de 2 jours, je la vois, je mangeais du saucisson et du jambon. J'ai dit, mais t'es pas végétarienne ? Ah, mais il fallait me prévenir, j'ai oublié. C'est avant tout une amie, quelqu'un, la femme la plus drôle que j'ai jamais rencontrée, c'est le meilleur résumé.
L'émission spéciale des Grosses Têtes en hommage à Isabelle Mergault sera rediffusée dimanche prochain à 15h sur RTL. Et puis écoutez aussi l'émotion de son meilleur ami, celui qui l'a accompagné jusqu'au bout, le comédien Jean-Louis Barcelona.
Se battait, elle pensait s'en sortir, quoi. Moi j'avais espoir aussi, je lui dis ça va aller, jusqu'à la semaine dernière que... Et que je sentais que ça, que c'était les derniers moments, quoi. Ce sera toujours dans mon cœur et on avait une relation très très forte. Elle aurait pas aimé ça, Isabelle. Ouais, elle aurait aimé qu'on rigole.
Les obsèques de Bruno Salomon ce matin en région parisienne devant une foule de ses amis, Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonquédec, ses partenaires dans Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi Jean Dujardin et la bande des Nous c'est nous avec qui il a débuté, une bande très émue qui a porté le cercueil du parvis de l'église jusqu'à l'hôtel. Bruno Salomon, décédé d'un cancer il y a 8 jours, à l'âge de 55 ans.
Salut à tous, ce lundi 30 mars 2026, sous la coupole du cimetière du Père Lachaise, l'émotion était immense pour les obsèques d'Isabelle Mergault, disparue le 20 mars dernier des suites d'un cancer. La comédienne, réalisatrice et ancienne figure des Grosses Têtes a reçu un dernier hommage à la hauteur de ce qu'elle représentait pour tant de Français. Une femme populaire, drôle, libre et profondément attachante. Dès 10h30, près de 600 personnes se sont réunies donc pour la cérémonie laïque avant l'inhumation à Montmartre aux côtés de son compagnon et de ses deux filles adoptives. De nombreuses personnalités avaient tenu à être présentes. Laurent Ruquier était là, bien sûr, entouré de plusieurs camarades des Grosses Têtes comme Christine Bravo, Michel Bernier, Stevie Boulet, Titoff, Raphaël Mesrahi ou Jean-Fille Janssen, d'autres visages du spectacle et des médias comme Karine Lemarchand, Jean-Luc Creschmann, Anne Roumanoff, Yves Lecoq, Jérémy Ferrari ou encore Ariel Dombal, fortement touché, comme on peut le voir sur certaines photos, ont salué sa mémoire. Mais au-delà des noms connus, ce sont aussi les anonymes, les auditeurs de RTL et les admirateurs de théâtre venus parfois de très loin qui ont donné à cette matinée une force particulière. Tous parlaient d'une femme sincère, sensible et d'un rire impossible à oublier. Très ému, Laurent Ruquier a livré un hommage bouleversant, rappelant qu'Isabelle n'aimait pas qu'on se prenne trop au sérieux. Puis, pour conclure, il a repris une citation de Sacha Guitry qu'elle aimait tant. Alors, adieu Isabelle, une formule simple, belle et déchirante. Sans doute un hommage que Isabelle Mergault aurait apprécié, c'est-à-dire sobre, efficace et pas trop exubérante. Pourtant, elle l'était, mais uniquement quand la caméra était sur on. Elle savait être très pudique, très sérieuse dans sa vie de tous les jours. Isabelle Mergault était une femme vraiment très forte, très attachante. Et aujourd'hui, il y avait énormément d'émotions au cimetière du Père Lachaise.
Le public me riait, et je l'étais. plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et quelquefois, quand je repense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi, oh, je suis heureuse, heureuse comme ça. Maintenant, je sais pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi, je suis heureuse, heureuse comme ça.
Un message de notre partenaire de toujours, Marcel Lynn, fondatrice du Ciné Franco. Avril 2026, le 7e art dans tous ses états, grâce à des coprésentations de Ciné Franco. Au revoir tempête de neige et bonjour la fraîcheur et le soleil du printemps. Ciné Franco fête la journée du cinéma canadien le 15 avril 2026, en partenariat avec Real Canada. 1000 secrets, 1000 dangers, version française, sous-titrée, en anglais, un film de Philippe Falardeau qui sera présent lors de la projection. 1000 secrets, 1000 dangers nous plonge dans un mariage avec 1000 souvenirs. En une journée condensée comme un vertige, Philippe Falardeau adapte l'excellent roman d'Alain Farah avec humour et sincérité. 1000 secrets, 1000 dangers, séduit par des personnages imparfaits et attachants, et confirme le regard sensible d'un cinéaste qui filme le cœur avant tout. Ciné Franco vous attend nombreux le 15 avril à 13h. Et c'est gratuit au Cinéplex, Scotiabank, 259 rue Richmond West, Toronto. Quelques billets gratuits pour les membres de la radio et de Ciné Franco à réserver absolument sur info@cinefranco.com. Je répète, info@cinefranco.com. Faites vite, les places sont limitées. Et il n'y a pas qu'au mois d'avril que ça bouge chez Ciné Franco. Ciné Franco est fier de s'associer à Hot Docs pour co-présenter deux superbes films. 115 documentaires de 51 pays, projetés du 23 avril au 3 mai. Pour célébrer comme il se doit nos 40 ans, je vous invite à découvrir d'autres superbes projections en mai, mais aussi tout au long de l'année, sur popourrichaud.com. Suivez Popourrichaud et Ciné Franco tout au long de l'année sur Facebook pour des billets à gagner. Au grand plaisir de vous voir nombreux. Bon cinéma et passez un beau printemps.
portés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et
FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
L'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
L'action musicale de RFI, c'est aussi un service à la carte pour tous ceux qui ont des besoins très particuliers. C'est le cas de J-Wave, station FM leader sur la ville de Tokyo. Elle diffuse depuis 1988 Paz & Jobs, une production RFI qui recueille chaque jour 600 000 auditeurs dans la capitale nippone. C'est aussi le cas de la compagnie Air France qui programme à bord de ses avions deux productions de RFI, Musique des îles et En direct du Japon.
Air France, ようこそ. 素敵な音楽で綴る空の旅。 これから1時間 ラジオ フランス インターナショナル より ジャパニーズ ポップス を 新旧 織り交ぜて たっぷりと お届けします ご案内役は 私 白石 リサ です どうぞ 最後まで お楽しみください まず 1曲目に お送りしたのは ニュー アルバム ライフ が ベストセラー を 続けている 小沢健二 の ヒットナンバー 愛し愛されて生きるのさ でした 続いては今井美樹さんのニューアルバム A Place in the Sun から 布袋寅泰さんが書き下ろした曲夢を聴いてください。
Avec Air France et RFI.
Bonjour, bienvenue sur la fréquence tropicale Air France RFI. Escale musicale de ce vol, les îles de la Guadeloupe à la Réunion, en passant par le Cap-Vert et Madagascar.
And we just listened to the tune Nuna no Anahi from Angelo, one of the big stars in Tahiti. Next up, the group Kayembe with their song Metchapo.
Il brille, camarade, allons mettre chapeau. Tiens pas, ça va, petit chemin, la chaleur, Léo. Nadia, il tape, si la terre boit sa clé glacée. Mouille la figure, tiens chemise, pour respirer un peu. Mouille la figure, tiens chemise, pour respirer un peu. Chapeau la paille, serré ma maille, ou bien petite casquette. Faites attention au soleil, Miro couvre la tête. Chapeau la paille, serré ma maille, même les démodés. Mette un capine si la tête, protège la santé. Mette un capine si la tête, protège la santé.
Iyon, Nodo Mutsumasa, Sapporo Kuro Label.
Bonsoir Tokyo, ici Paris.
Édition spéciale, 40 ans déjà. Toute la diversité des francophonies sur votre fréquence. Vous êtes bien sûr CUT 89,5 FM, la radio campus de l'Université de Toronto. Et Canada, quand les étrangers parlent du Canada, ils pensent souvent à un pays de grands espaces, à ses paysages grandioses, à sa diversité culturelle et à ses deux langues officielles, l'anglais et le français. Or, être francophone et vivre en français au Canada est un parcours de combattant. Le français est présent au Canada depuis plus de 400 ans. Et j'en profite en cette journée spéciale pour rendre hommage à tous ces pionniers, écrivains, politiciens, artistes, poètes, professeurs, animateurs de radio, d'ici et d'ailleurs en provenance de l'Europe. Je pense ici au professeur Eddy Bouraoui, franco-tunisien, canadien, grand poète qui jongle avec les mots. Reconnu au Canada et à l'étranger, professeur émérite, Université York, grand et fidèle ami de la radio depuis ses débuts. Il a écrit plusieurs romans traduits en plusieurs langues. J'aimerais aussi rendre hommage au cofondateur de cette émission, le regretté professeur Frédéric Case, le premier directeur de race noire du département de français à l'Université de Toronto. Et que dire de ces Françaises immigrantes, tenaces, courageuses, mariées à des soldats canadiens établis à Toronto après la Deuxième Guerre mondiale. Elles m'ont beaucoup appris sur les réalités de ce Toronto des années 40-50. Une ville puritaine, conservatrice. Elles ont eu le courage de résister
face au colonialisme anglo-américain. Et ce, sans subvention, avec peu de moyens de bord. Elles ont lancé le French Saloon, les rencontres littéraires, sociales et des projections de films en français. Voilà un pan de l'histoire qui mérite d'être connu par le grand public. Merci à ces femmes, ces hommes de la première heure. Ceux et celles qui ont débroussaillé le chemin. Eh oui, j'aime bien ce terme, débroussaillé le chemin. Vos efforts ont permis à la relève et à la sauvegarde du français partout au Canada et en Amérique du Nord. Merci du fond du cœur. L'Amérique francophone, une tapisserie vivante, est diversifiée avec environ 33 millions de francophones, francophiles du Canada, des États-Unis, de l'espace Caraïbe et de l'Amérique centrale et du Sud.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres de pensée. Je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur CUT 89,5 FM et Popourri Show. Le printemps est enfin arrivé et avec lui des offres incroyables dans le cadre de notre 40e anniversaire. Chaque dimanche, toute l'équipe de la radio vous propose une programmation exceptionnelle. Vous y découvrirez d'autres points de vue sur le monde et plus de récits captivants provenant des pays de la francophonie. Ce printemps, faites-le plein d'énergie chez nous grâce à nos DJ médias partenaires. Inscrivez-vous et devenez membre lors de notre campagne de financement du printemps. www.cut.fm et cliquez sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas de mentionner votre émission préférée, Popourri Show. Pour en savoir plus sur nos règles de diffusion en ligne, notamment sur le rattrapage ou la disponibilité de nos émissions à l'extérieur du Canada, ou pour toute autre question sur nos offres de partenariat, veuillez nous écrire à popourri@cut.fm ou consulter notre site web popourrishow.com. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un bon printemps.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI 9h à Port-au-Prince, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contenaire.
Dans un instant, le journal et de nouvelles menaces de la part de l'Iran comme d'Israël, puis la dernière partie de notre émission sur le continent américain. En Haïti, le journal Le Nouvelliste a pu parler à des survivants du massacre commis dans l'Artibonite par le gang Grand Griffe le week-end dernier. Nous serons en ligne avec son rédacteur en chef. Nous irons au Pérou où la campagne électorale pour la présidentielle est polluée par la désinformation. Et on parlera aussi des Outre-mer françaises comme chaque jour. Edwige Saint-Thomas en Martinique et en Guadeloupe. L'augmentation des prix à la pompe pèse déjà sur le portefeuille des particuliers. Ça a aussi un impact sur la trésorerie des professionnels.
Oui, depuis hier, le prix du carburant avoisine les 2 euros dans les Antilles françaises. Parmi les professionnels durement touchés financièrement, il y a les marins pêcheurs qui doivent en plus faire face au fléau des algues sargasses.
À tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Anne Contenaire.
Comme chaque jeudi, on retrouve notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, en ligne de Port-au-Prince. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
À la une, le choc, toujours après l'attaque du week-end dernier à Jean-Denis, dans la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite. Vous avez pu recueillir au Nouvelliste le témoignage de survivants, d'habitants qui vous ont raconté l'horreur commise par le gang Grand Griffe.
Tout à fait. Le Nouvelliste a donné la parole ce matin à des victimes, à ceux qui ont vécu l'enfer à Petite Rivière de la Tibonite, et particulièrement dans la localité de Jean-Denis. On donne la parole ce matin à Ilres Théophile, qui a perdu son fils aîné de 35 ans, qui a aussi perdu trois de ses frères au moment de l'attaque survenue en soirée, samedi dernier. Il explique, il raconte comment ça s'est passé, comment lui, il a pu se sauver, comment il est revenu sur les lieux, comment il a retrouvé les corps et comment la ville continue de vivre avec ce qui se passe. Il nous dit dans une phrase terrible que même les chiens ont fui la ville parce qu'en réalité, les bandits ont tiré sur tout ce qui bougeait. Ils ont incendié des maisons. Ils n'ont laissé derrière eux que des victimes. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont attaqué à nouveau. La police est venue. La police n'a pas pu rester parce que la police n'a pas assez d'effectifs. Il faut dire que dans cette région du pays, la police travaille en journée et les bandits attaquent en soirée quand il fait noir.
Et puis
totalement sidérant.
Le Nouvelliste rapporte aussi, Franz, que 24 heures après ce massacre à Petite Rivière de l'Artibonite, une autre commune s'est retrouvée aux mains des gangs Grand Griffe et Cocorade sans race.
Tout à fait. C'est la commune de Marchand-des-Salines. C'est la première capitale d'Haïti après l'indépendance en 1804. Cette commune a été attaquée aussi par des gangs. Et là encore, ils ne sont pas tués, mais ils ont pris la ville en quelque sorte parce que depuis juillet 2025, il n'y a plus de présence policière du tout dans cette localité. Les bandits avaient attaqué, ils avaient incendié le commissariat, ils avaient été délogés, étaient partis, mais ils reviennent. Là, ils se sont comportés vraiment vainqueurs. Ils ont essayé de rameuter tous les citoyens sur la place publique. Ils ont distribué de l'argent, ils ont filmé tout ça parce qu'à chaque fois, ils filment leurs exactions, leurs réussites, entre guillemets. Ils postent ça sur les réseaux sociaux pour montrer que c'est eux qui ont la main, en quelque sorte. La police essaie de faire de son mieux, mais il faut dire que l'Artibonite, c'est une vaste plaine agricole. Il y a beaucoup de localités et la police a de moins en moins d'effectifs, d'autant plus que nous sommes dans la période de transition. Les forces kenyanes sont en train de partir. Les nouvelles forces ne sont pas encore totalement arrivées pour être déployées sur le terrain. Il y a un vide et c'est à l'intérieur de ce vide que les gangs attaquent plusieurs localités en même temps, font des victimes. Et ensuite, cri victoire.
Et puis, Franz, vous revenez aussi sur un scandale au sein de l'immigration dans l'affaire dite des vrais faux passeports. Et vous nous dites qu'il y avait eu des alertes qui ont été ignorées par le ministère.
Tout à fait. Le Nouvelliste publie ce matin des extraits de correspondance entre la direction de l'immigration et de l'immigration et son ministère de tutelle, qui est en Haïti le ministère de l'Intérieur. Ils avaient averti qu'il y avait des failles, qu'il y avait des choses qu'il fallait corriger, qu'il y avait des logiciels qu'il fallait implémenter, qu'il fallait changer le parc informatique. Et tout le monde était au courant qu'il y avait des failles. Et voilà que près de 6 mois après les premières lettres, c'est le ministère de l'Intérieur qui était chargé de corriger les failles. C'est le ministère de l'Intérieur qui a fait appel à la justice pour dénoncer l'existence de vrais faux passeports. Il faut dire que pour faire le passeport, il faut toute une chaîne de documents en Haïti pour finir par avoir le document final. Et pour le moment, c'est l'immigration qui est mise sur la sellette. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'autres instances, beaucoup d'autres institutions haïtiennes qui ont des faiblesses connues et qui n'ont pas encore été corrigées. On attend de voir l'évolution de ce scandale parce que pour le moment, l'immigration est toujours sous scellé. Le bureau du directeur général est toujours sous scellé par la justice. L'enquête se poursuit et il y a un flou. On ne sait pas comment vont aller l'histoire des passeports, des vrais passeports, des vrais faux passeports en Haïti.
Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Les articles que l'on vient d'évoquer sont à lire sur votre site lenouvelliste.com et on vous retrouve ici sur cette antenne jeudi prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Edwige Saint-Thomas, en Martinique et en Guadeloupe, où la hausse du prix des carburants frappe très durement et les particuliers et les professionnels.
Et bonjour Anne, bonjour à tous. Près de 2 euros le litre de sans-plomb, comme pour le gazole. Forcément, ça se ressent dans le budget des ménages et encore plus chez les professionnels. Les transporteurs sont en première ligne, artisans, taxis, ambulanciers, des professions réglementées qui ne peuvent pas augmenter leurs tarifs du jour au lendemain. La hausse du prix des carburants frappe également durement les marins-pêcheurs. Une difficulté de plus qui vient s'ajouter à l'arrivée massive des algues sargasses sur les côtes martiniquaises. Guy-Marie Joseph, président de l'association des marins-pêcheurs de Saint-Anne, répond à Ronan Bonnec.
Nous, on a des bateaux avec une grande capacité, comme pour moi, de 600 litres d'essence. Et nous avons une grosse consommation parce que nous avons des moteurs au bord de plus de 300 chevaux. Ça nous impacte énormément. Et il s'avère qu'il y a énormément de sargasses en mer qui s'ajoutent à notre activité, nous bloquent un petit peu. Et pour ce faire, nous, voilà que voilà le prix de l'essence a augmenté drastiquement pour nous. Hein. Ça nous pénalise beaucoup, énormément.
En bref, Air Anti joue peut-être son dernier vol. Aujourd'hui, le tribunal de commerce doit trancher sur l'unique offre de reprise de la compagnie aérienne. 114 salariés sont suspendus à cette décision. Quand les collégiens partent à la rencontre des professionnels de la croisière, deux classes de 3e du collège Sardi Carnot en Guadeloupe ont visité les installations portuaires et échangé avec des professionnels du secteur. L'idée, pratiquer les langues vivantes et régionales en situation réelle, accueillir des croisiéristes en anglais, en espagnol, en créole, et en même temps découvrir les métiers du tourisme et de la croisière. Donc, à l'origine de cette initiative pédagogique, Laurence Corentin, responsable de croisière et nautisme au CTI, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Pour elle, ces visites ont du sens.
Pour nous, c'est très important, hein, puisqu'on a cette mission aussi, donc de promotion de la destination, mais on encourage aussi, hein, puisque le tourisme, la promotion de la destination, c'est pas tout le monde qu'elle se fait. Donc sensibiliser aussi ces collégiens, puisqu'ils sont en troisième, ils sont très jeunes, à tous les métiers et toute cette logistique d'organisation quand un navire arrive, pour nous, c'est très très important en termes de promotion. On va les considérer comme des ambassadeurs de la destination auprès de leurs amis, de leur famille. Ils l'auront fait et on a de très bons retours sur cette opération. On a pu présenter aux collégiens, le métier donc de guide touristique, les commerçants qui sont au village artisanal, le duty free, on a parlé des agents maritimes, de la sûreté, donc ils ont pu vraiment voilà se rendre compte de ce panel de métiers qui s'offre, et on parle uniquement au niveau de l'industrie de la croisière, mais en tout cas tout ce qui peut être fait, ouvrir un petit peu les yeux et leur donner un peu un champ plus large de possibilités.
Propos recueillis par Guadeloupe la Première, c'est la fin de cette édition. Excellente journée.
Bonne journée Edwige Saint-Thomas. Et bonne journée à vous tous qui nous écoutez. On va dire un petit mot de ce qui vous attend ce soir à 17h10, temps universel, grand reportage en ouverture de notre session d'information de la soirée. Jacques Alix, le grand reportage du jour, nous emmènera dans l'un des plus grands sanctuaires sauvages d'Afrique.
Nous partons pour la réserve de Chinko dans le sud-est de la République centrafricaine. La biodiversité y est exceptionnelle, un poumon pour la planète qui se réchauffe. Un partenariat public-privé a été mis en place. Les populations locales sont de plus en plus associées également, avec pour objectif restauré et protégé. Reportage de notre correspondant à Bangui, Rolf Steve Domialeux.
Le brouillard se lève, s'enroule lentement, puis se dissipe au-dessus de la réserve naturelle de Chinko. À l'aube, dès le premier chant du coq, deux gardes spécialisés en écologie positionnent leurs motos à l'entrée de l'aérodrome de Chinko. Dans quelques minutes, les avions de surveillance décolleront pour survoler le parc.
Nous sommes chargés de sauvegarde dans le quartier African Pass RC.
Je suis chargé de sauvegarde. La piste mesure plus de 500 mètres. Comme vous pouvez le voir, elle est actuellement occupée par une vingtaine de facochères. Dans ces conditions, les avions ne peuvent ni décoller ni atterrir au risque de les percuter et de provoquer un accident.
Les motos vont chasser les facochères et l'éléphant de forêt, le léopard, pourront être protégés, notamment des braconniers, des coupeurs de bois et autres mineurs illégaux.
Voilà, tout ça à découvrir tout à l'heure dans le grand reportage de Rolf Steve Domialeux à 17h10, temps universel. RFI Midi, c'est presque terminé pour aujourd'hui. On va se quitter avec un peu de musique.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à Ketka et le mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Tout au long de l'année, De La Little Music nous présente les nouveautés des artistes émergents de la diversité francophone du pays. Aujourd'hui, place à Richie J, qui nous dévoile le vidéoclip de Solo, réalisé par KN Visuals, Kevin Noisette, sur une trame Zouk Compa en français et en créole. L'artiste y raconte une relation qui ne comble plus et affirme le choix de se retrouver seul plutôt que de rester dans une histoire où chacun vit de son côté. La musique est signée Poppy Duverne. Les paroles sont de Richard Verdieu et Mario Saint-Hubert. Solo, une chanson à retrouver sur popourichaud.com. Une chanson de Reggie J, une présentation de telalitomusic.com.
TV5Monde.com, c'est tout TV5Monde et bien plus encore.
Retrouvez le guide des programmes traduit en 5 langues.
Découvrez les bandes annonces de vos films.
Visionnez où vous voulez et quand vous voulez vos émissions favorites.
Restez connecté à l'information avec toute l'actualité internationale en direct, nos JT et dossiers multimédia.
Voyagez avec un site 100% Afrique.
Visitez toutes les cultures du monde.
Consultez la météo.
Interrogez notre dictionnaire.
Vibrez sur toutes les musiques du monde.
Apprenez et enseignez la langue française.
Jouez et gagnez des cadeaux avec nos quiz et nos concours.
Voyagez, découvrez, partagez. Tous les mondes se rejoignent sur tv5monde.com.
Sophie Franc. Solidarité, action, innovation. Et oui, cette émission réalisée en partenariat avec Sophie Franc, qui signifie solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara. Sophie Franc est un organisme communautaire sans but lucratif, créé en 2007 par des femmes immigrantes originaires de diverses parties du monde. Sophie Franc a pour but d'accompagner les femmes et leurs familles dans leur processus d'intégration au Niagara en offrant des services dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Grâce à l'engagement de ses bénévoles, Sophie Franc conçoit, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins spécifiques et actuels de la communauté des immigrants francophones du Niagara. Tout au long de l'année, Sophie Franc vous invite à une multitude d'activités communautaires, culinaires, culturelles, littéraires et sportives. Sophie Franc,
un organisme qui a déjà fait ses preuves. Vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et sur son site web sophiefranc.org ou tout simplement sur popourichaud.com. Sophie Franc, solidarité, action, innovation et fier partenaire de Popourichaud et CUT FM.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Point de neuf, les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourichaud.com.
We the people are so powerful.
L'état des dégâts des ébats sans débat ni combat. L'apparition est prévue pour mai 2026.
We the people can change the world. We the people have had enough.
L'état des dégâts, des ébats sans débat ni combat. Franchement, ça ne laisse pas indifférent.
Non, effectivement, attache ta tuque, ça va fesser dans le dos.
L'état des débats, des ébats sans débat ni combat, c'est le prochain livre de notre ami infréquentable Frédéric Boiron. Eh oui, les collaborateurs de Popourichaud, à son temps libre et à sa guise. Pour tout savoir, madame, monsieur, et si cela vous tente, frédéricboiron.com, prochain livre, l'état des débats, des ébats sans débat, ni combat. À retrouver sur popourichaud.com.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourichaud et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Les éditions Prise de Parole nous proposent plusieurs nouveautés littéraires, dont Du sang sur la neige, un récit solidement documenté sur les fractures sociales et économiques à l'origine de la tragédie la plus meurtrière de l'histoire syndicale canadienne. Du sang sur la neige, en bande dessinée, documentaire, la tragédie de Resort Siding, écrit par Jacques Poirier et Christian Quesnel. Jacques Poirier, Christian Quesnel, dans Du sang sur la neige, à retrouver sur Popourichaud ou prisedeparole.ca. Et la deuxième nouveauté de prise de parole, Yasama et la calebasse au curry de Lua Shehan et Tiffany Rato Gatronga. Et oui, c'est le deuxième album de la collection Première Loge. Cet album inspiré par la tradition orale africaine, le théâtre et la danse offre aux jeunes de 6 ans et plus un éloge de la persévérance et de l'humilité sous la forme d'un conte écologique contemporain. Je vous invite chaleureusement à visiter le site prisedeparole.ca ou popourichaud.ca pour plus de détails. Aussi dans cette émission, c'était la grande nouvelle de la semaine qui a tenu la planète en haleine. Céline Dion est de retour sur scène à Paris pour 10 shows exceptionnels. Tout au long du printemps, découvrez l'histoire et les secrets de cette icône et femme de cœur avec qui j'ai partagé la scène lors de la visite de Jean-Paul II à Montréal. Oui, oui, j'ai chanté avec Céline Dion, elle n'avait que 15 ans. Rendez-vous, madame, monsieur, chaque dimanche, en compagnie des journalistes et des DJ du Québec et de France. Et courez la chance de gagner une paire de billets à un des 10 concerts à Paris. Céline Dion, la diva, est de retour.
Bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois, je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. Wow. J'avoue que ce n'est vraiment pas facile de me cacher de mon propre anniversaire. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ces dernières années, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas senti vos prières, votre support et bien sûr, votre amour. Même dans les moments les plus difficiles, vous étiez là. Vous m'avez aidé d'une façon inexplicable et je me sens vraiment chanceuse de pouvoir compter sur votre support. Vous me manquez beaucoup. Eh bien, tout cela me ramène à mon anniversaire. Alors cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, je me forte, super excitée, évidemment, aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Eh bien, bon anniversaire à moi-même. Et puis, je vous aime et j'espère à bientôt. Gros bisous. Bye bye. À bientôt.
On retourne au pied de la Tour Eiffel, Alexis Vallée. On vous retrouve, on continue à voir d'ailleurs les images en direct de ce spectacle, de ce son et lumière sur la Tour Eiffel offert pour tous les Parisiens, hein, à l'occasion de cette annonce donc d'un retour de Céline Dion. Je redis pour les téléspectateurs qui nous récupèrent en cours de route, 10 concerts annoncent Céline Dion à la Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre. Alexis, vous êtes avec d'autres fans.
Oui, je suis avec Maud. Alors Maud, ce show spectaculaire, ce message de Céline Dion, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'était incroyable. Enfin, on attend depuis 10 ans en France, donc c'est fou, c'est irréel. Et c'était super beau de la voir, enfin de voir les lumières sur la Tour Eiffel, les couleurs.
Et pour vous, Céline Dion, elle représente quoi ?
Elle représente beaucoup de choses. Ça fait 10 ans que je suis fan et elle m'a permis de me rapprocher de mes parents. J'ai grandi avec elle. Je sais pas, ses musiques, elles me touchent. Enfin, elle représente vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Merci Maud. Et en tout cas, comme de nombreux fans, ils vont tous être demain sur le site de la billetterie afin de pouvoir avoir une place à l'un de ces 10 fameux concerts.
Merci Alexis. Justement, un dernier mot Isabelle et Yves. Isabelle, sur ces places.
Oui, ben justement, si vous voulez être prioritaire, il faut vous préinscrire sur le site de Céline Dion, CélineDion.com. Ces personnes-là qui seront inscrites auront la priorité. Il y aura 10 dates, évidemment, 400 000 places, mais le monde entier est concerné. Donc, évidemment, c'est un peu malin de la part de l'équipe marketing de Céline Dion de récupérer plein d'adresses mail. Mais voilà, si vous voulez vraiment tenter votre chance, ben, il faudra passer par là.
Juste Yves, un dernier mot, parce qu'on a commencé justement cette page avec donc cette annonce de Céline Dion. On vous en reparlera évidemment dans le journal de 22h. Un mot pour qualifier la manière dont Céline Dion s'est adressée aux Français sur France Télévisions. Ah ben, vous l'avez trouvé comment ?
C'est à l'américaine. C'est-à-dire que tout est chorégraphié, tout est prévu. C'est son anniversaire. Alors, il y avait déjà Johnny.
Alors, ça avait l'air très naturel pourtant. Elle en a parlé de manière...
C'est une nord-américaine. Donc, le show business, c'est naturel pour eux. Comme dans son documentaire, de tout montrer, de tout dire. Puis elle est très fun, Céline. Elle adore ça. C'est quelqu'un de très simple. Elle vous tutoie la première fois où elle vous rencontre, etc. C'est des gens qui adorent leur métier, ils adorent ce qu'ils font, ils adorent faire le show, ils adorent paraître, ils adorent la télé. Céline, elle adore la télévision aussi.
Et Taylor Swift, elle fait pareil, hein, des teasings, des énigmes, des trucs, c'est faire monter la sauce pour que les gens soient fous.
Bien sûr, tout est organisé, il faut que le narratif contribue à la légende.
Eh bien, en tout cas, message reçu pour nos téléspectateurs qui sont fans de Céline Dion. Tout le monde ne l'est pas forcément, mais en tout cas, pour ceux qui sont fans, 10 dates du 12 septembre au 14 octobre, 10 concerts à la Défense Arena. Isabelle, vous avez conseillé à nos téléspectateurs de s'y prendre très vite en allant d'abord sur le site de la star.
Ça sera les samedis et les mercredis.
Les samedis et les mercredis. Ben voilà une précision, Yves. Et puis, on se quitte avant de revenir à la réalité du monde contemporain et notamment à la guerre au Moyen-Orient. On se quitte, je vous l'avais promis, avec la dernière apparition en public de Céline Dion. C'était justement déjà à la Tour Eiffel, l'ouverture des JO 2024. On réécoute cela avant la transition vers d'autres horizons. Mais en tout cas, cette page de légèreté, JO 2024, on écoute.
Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu qu'on
La nouvelle a fait le tour du monde. Céline Dion a bel et bien confirmé son retour sur scène hier soir. Tabarnak, comme disent les Québécois. Quelle surprise! Enfin, pas vraiment, hein, parce que pas mal d'informations avaient filtré ces derniers jours. En tout cas, maintenant, c'est une guerre des places, de vente de places, qui est lancée. Voyons cela avec Michel Téchy et Dominique Dussin.
À l'heure dite hier soir, c'est au son de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Encore un soir, que la Tour Eiffel s'est illuminée pour célébrer l'arrivée prochaine de Céline Dion à Paris. La star a alors annoncé dans un message préenregistré en français et en anglais son retour sur scène.
Je suis tellement contente. Je me sens bien, je me forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir.
Cette annonce a immédiatement lancé les inscriptions pour les préventes des places. Préinscriptions qui donneront lieu à un tirage au sort qui permettra alors d'acheter réellement sa place à un prix qui n'a pas encore été communiqué. Le site a été rapidement pris d'assaut. Il faut dire que la campagne marketing faite de teasing et de lancement de rumeurs a été très efficace tout en étant peu coûteuse pour la star.
Il n'y a pas énormément d'argent, c'est vrai, dans la campagne marketing. Bon, Céline Dion avait un peu teasé sur Instagram en publiant des photos de son retour parisien ou de ses précédents séjours parisiens. Il y a eu la campagne d'affichage dans les rues de Paris. Mais elle sait très bien que tous les médias vont se ruer sur la potentialité de l'annonce. Et tous les médias savaient que l'annonce était imminente. Et finalement, avec peu de choses, elle a une immense couverture. C'est plutôt bien joué de sa part et de son équipe.
Les concerts au Paris La Défense Arena auront lieu du 12 septembre au 14 octobre, tous les samedis et mercredis. 10 concerts pour le moment, même si on ne peut écarter l'idée que d'autres dates seront ajoutées si les salles sont pleines et si la santé de Céline ne la lâche pas. La star, en tout cas, a tenu à rassurer ses futurs spectateurs à ce propos.
Je suis prête.
Les préinscriptions sont possibles jusqu'à jeudi soir et les fans non sélectionnés par le tirage au sort seront mis sur une liste d'attente.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Matin, Thomas Soto.
Il est pratiquement 8h18, l'interview de Marc-Olivier Fogiel. Ça fait des années qu'on espérait son retour. Cette fois, Céline Dion revient. Comment s'est organisé ce retour en coulisses? Ce matin, vous recevez un homme qui connaît presque tous les secrets de la star. C'est Benjamin Locoge, le rédacteur en chef culture de Paris Match. Et aussi Thomas Joly, le metteur en scène à l'origine de la performance de Céline Dion pendant les JO de Paris.
Et bonjour Benjamin Locoge.
Bonjour.
Bonjour Thomas Joly.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Céline Dion revient malgré un état de santé préoccupant. On l'a pensé trop malade pour revenir sur scène. On va commencer par ça d'abord avec vous, Benjamin Locoge. Elle est prête physiquement à assurer le show ou il y a encore une épée de Damoclès qui pourrait faire qu'elle recule au dernier moment?
Si ils ont annoncé hier soir 10 concerts à Paris pour septembre 2026, c'est qu'elle est prête. C'est le message qui a été affiché sur la Tour Eiffel. Paris, je suis prête. Paris, I'm ready. Donc oui, elle y va parce qu'elle a l'aval de ses médecins pour dire je peux y aller. Après, oui, on a vu que c'était des spectacles espacés. Il y aura un spectacle mercredi, puis un le samedi. Ça, pendant donc plusieurs semaines. C'est pas un rythme soutenu de 5 à 6 shows par semaine. Donc elle prend encore certaines précautions parce que voilà, c'est une maladie dont on ne guérit jamais vraiment.
La maladie, donc, c'est la maladie du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable qui touche une personne sur 1 million. Thomas Joly, la dernière fois qu'on a vu Céline Dion, c'était à la Tour Eiffel, performer grâce à vous, j'allais dire. Elle avait réussi à performer sans que ses crises ne prennent le dessus. Elle était en forme, Céline Dion, à ce moment-là, Thomas?
Elle était absolument en forme. Je crois qu'elle l'est aujourd'hui puisqu'elle nous l'a dit hier. Mais nous avions prévu deux solutions. Une première version qui était de chanter sur la place du Trocadéro et une, évidemment, notre préférée au premier étage de la Tour Eiffel. Et elle a testé les deux et elle m'a dit qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je chanterai là-haut sur la Tour Eiffel, ce qu'elle a fait. Elle s'est sentie de le faire comme ça et c'était notre meilleure proposition. Et c'était sa préférée aussi et elle nous a offert ce cadeau.
Mais dans le documentaire où on la voyait avec ses crises extrêmement douloureuses qui l'handicapaient terriblement, sa médecin disait que les crises peuvent être déclenchées par des bruits forts, des lumières vives, l'excitation ou le stress émotionnel. Il n'y avait pas tout ça au moment des JO, Thomas?
Ah ben, j'imagine que effectivement le contexte devait être propice, mais je crois qu'elle était très bien entourée. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions organisé pour elle la mise en scène, la scénographie qui permettait que ses équipes ne soient jamais très très loin d'elle. Et puis après, je pense quand même, c'est le message qu'elle nous a donné hier, c'est que elle s'est sentie prête, elle s'est sentie confortable, elle avait tout pour être bien dans sa performance, et donc elle a accepté de le faire sur la Tour Eiffel. Et surtout, ça a été un moment unique.
Vous dites qu'elle était très entourée, ça veut dire, Benjamin Locoche, qu'il y a une équipe médicale qui la suit en permanence parce qu'elle suit des traitements.
Elle suit des traitements depuis 2020. Oui, elle est très entourée, il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de médecins, il y a un médecin référent. Elle, voilà, c'est un programme de remise en forme, d'adaptation de son mode de vie, qui fait qu'aujourd'hui, elle peut vivre avec cette maladie sans être pénalisée. Après, oui, les crises peuvent.
Ça veut dire qu'il y a toute une équipe médicale, notamment quand elle devait aller à l'Eurovision et finalement elle y a renoncé. On a dit qu'elle y est allée, mais qu'elle n'a pas pu performer. C'était toute une équipe médicale qui l'accompagnait en avion.
Il y avait un médecin avec elle.
Un médecin.
Ouais.
Et au quotidien, elle est très soutenue.
Oui, je pense que c'est des rendez-vous très très réguliers et on voit bien que elle fait tout pour être en forme. Physiquement, elle a l'air très fit. Donc on sent que c'est un combat pour elle d'adapter son mode de vie à ce qui lui est arrivé.
Thomas, au JO, est-ce que vous aviez évoqué avec elle son envie de revenir sur scène?
Non, on n'avait pas évoqué ça, mais j'ai tellement vu dans sa répétition l'émotion très puissante. On était une petite quarantaine dans le creux de la nuit pour l'entendre répéter. On a vu tous et toutes son émotion. D'ailleurs, on la voit dans le documentaire et on s'est tous dit, bon, voilà, elle n'a qu'une envie, c'est d'être ici, c'est son endroit, la scène. C'est normal, hein, c'est une artiste qui se révèle par la scène, par la rencontre avec le public. Et je crois que ça l'avait tellement touchée que oui, c'était assez évident qu'elle avait envie de revenir.
Une forme de déclencheur. Le public me manque tellement, si je ne peux pas courir, je marche. Si je ne peux pas marcher, je ramperai, mais je n'arrêterai pas, disait-elle dans le documentaire. Pourquoi Paris, Benjamin Locoche? J'imagine que toutes les scènes du monde ont surenchéri pour avoir Céline Dion. Il y a aussi une question financière dans tout ça.
Alors, il y a eu des offres de 4 villes, on le sait, qui ont été jusqu'au bout.
J'imagine Paris, donc.
Paris, Londres, Munich et Las Vegas.
D'accord. Pas Montréal.
Non, Montréal, parce qu'en fait, il faut trouver des villes qui ont des capacités, qui ont des salles de 40 000, 50 000, 60 000 places. Là, à Paris, c'est 33 000 personnes par soir.
À l'Arena Défense.
À la Paris de la Défense Arena. Oui. Tout a été en discussion jusqu'à fin février. Et en fait, Paris est apparu la meilleure option parce que la salle est couverte. Mmh. Donc, il n'y a pas de problème de plein air, de pluie et tout ça qui peuvent gâcher le spectacle. Et surtout, Paris a du sens pour elle. C'est là où elle fait son premier déplacement à l'étranger en 1982, 83, 84. Elle fait l'Olympia en 84. Elle fait des télés en 81, 82. Et surtout, dans son cœur, elle n'a jamais oublié que Paris, en 1999, lorsqu'elle fait pour la première fois le Stade de France et René Angélil, son mari, est atteint d'un cancer, Paris, à un moment, voit René sur les écrans et l'ovationne. Mmh. Et ça, c'est un souvenir pour elle. Voilà, elle ne l'oubliera jamais. Et Paris a cette place dans son cœur parce que c'est la ville qui l'a consacrée. L'album avec Goldman, enfin, il y a, voilà, c'est aussi fort pour elle que son rapport au Canada.
Elle dit donc 10 dates pour l'instant à Paris. Donc, est-ce que ça peut être plus? Parce que on voit bien.
Oui. La réponse est oui.
Ah oui. Donc vous dites ça ce matin.
Oui, non.
Parce qu'on a beaucoup lu qu'il y avait que 10 dates de disponibles.
Alors, oui, là il y a 10 dates de disponibles parce qu'effectivement vous pouvez pas demain dire allô bonjour il me faudra un stade pour la semaine prochaine. C'est des choses qui s'anticipent. Il y a des options qui sont sur 2027. Hier soir il parlait d'Asie parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait l'Asie. Est-ce qu'une résidence au Japon, une résidence à Singapour est dans l'air? Peut-être un retour en France également parce qu'ils vont voir un petit peu comment ça se passe.
Donc ça commence là, mais ce n'est qu'un début.
Oui, parce qu'il y aura derrière ça un premier single, un deuxième single, un album. Mmh. Donc oui, c'est le premier étage d'un retour à sa vie de chanteuse.
Comment ça s'est passé? Amenez-nous en coulisses, Benjamin Locoche, parce que pour pouvoir bloquer l'Arena Défense, ça on claque pas des doigts. Donc ça veut dire que AEG, le producteur, avait mis des options depuis combien de temps? Fait combien de temps que les choses s'organisent en coulisses, hein?
Depuis les JO de Paris, grâce à
Thomas.
Ouais. C'est-à-dire que là, les équipes de Céline Dion ont dit, on va quand même un jour essayer deux. Et à partir de ce moment-là, tout le monde a dit, bon, bah, si Céline a envie d'eux, il va falloir bloquer des dates. Donc oui, nous, on savait depuis deux ans, depuis 2024, que l'Arena était bloquée en septembre-octobre. Mais ce genre d'option, ça se repousse. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on dit, est-ce qu'on peut bloquer? Est-ce qu'on décale? Après, ça a des coûts. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas juste dire, j'annule. Donc oui, ils ont mis des options et tout a vraiment accéléré en 2025. Donc à la fin, en gros, troisième trimestre 2025, où là, il était temps de confirmer ou d'annuler. Ils ont dit, bah laissez-nous jusqu'en mars 26, et voilà, on y est.
Et ils ont donc confirmé les retombées économiques, c'est quoi? On parle 1 milliard d'euros sur l'économie française, mais c'est quoi les retombées économiques?
Bah, très concrètement, moi je suis un petit peu en désaccord avec cette histoire, parce que oui, donc les gens qui vont venir du monde entier vont louer des chambres d'hôtel à Paris, mais je pense pas que les Américains s'installent 2 mois à Paris pour voir Céline pendant 2 mois. Non, c'est 10 concerts. Donc, pendant 10 soirs, il va y avoir, comme pour Taylor Swift, comme quand il y a des grandes stars américaines qui viennent, à chaque fois il y a un contingent d'étrangers qui vient passer du temps à Paris, donc oui, il va y avoir des retombées touristiques. De là à dire, bookez vos chambres d'hôtel maintenant, parce que ce sera archi complet partout, j'y crois pas.
Le show, il va forcément y avoir cette chanson.
Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes...
Il y aura quoi d'autre?
Alors, hier soir, ses équipes nous expliquaient qu'ils ont déjà travaillé à la composition de la scène, que c'est quelque chose d'assez phénoménal. Ils nous ont dit que c'est très sobre, mais immense.
Immense. Hein.
Voilà, donc ça va être une très grande scène.
C'est un metteur en scène canadien qui la met en scène, québécois.
Ouais. Et ils nous ont dit que ce serait un répertoire composé de titres en anglais et de titres en français, donc un show adapté au public francophone, ce qui n'est pas le cas quand elle fait des shows à Las Vegas, par exemple, où il n'y a qu'un titre en français. Et il y aura donc un nouveau single diffusé d'ici 15 jours.
Donc single écrit par Jean-Jacques Goldman.
Oui, ça pareil, ça fait 2 ans que...
Ça c'est sûr,
oui,
il est fait, forcément, et il est dit, dans 15 jours, il est mis en radio.
Il sera mis en radio, j'espère, probablement chez vous, dans 15
normalement,
jours.
Normalement, si tout va bien.
Que vous êtes partenaire. Donc,
Jean-Jacques Goldman, Icar aussi.
Alors Icar, c'était nouveauté d'hier, oui, Icar est managé par la même personne qui manage Céline Dion en France, donc les connexions se sont faites comme ça, et oui, il est auteur du 2e single, probablement début d'été.
Et un 3e single avant le mois de septembre.
C'est hypothétique pour l'instant, mais l'idée c'est d'arriver le 12 septembre avec 3 nouvelles chansons, donc un 3e single, mais ça c'est encore en travail. Encore une fois, ils ont commencé à travailler sur le show depuis un certain temps, ils ajusteront jusqu'à la dernière minute. Et la nouveauté aussi d'hier soir, c'est qu'on pensait qu'elle passerait l'été à Paris pour répéter. Non, elle arrivera à Paris début septembre. Ils vont répéter tranquillement aux États-Unis et ils arriveront à Paris début septembre pour commencer le samedi 12.
Pour conclure, Thomas, vous en savez quelque chose, vous, du show et votre confrère québécois qui va le mettre en scène? Ça doit être énorme sur ses épaules, vous qui avez mis les JO en scène.
Écoutez, moi, depuis ce matin, enfin depuis hier soir, je suis comme tous les auditeurs auditrices. Ouais. J'apprends, là, je viens d'apprendre plein de choses. Merci beaucoup.
Donc,
non, mais je suis dans la surprise et c'est très joli. Moi, je vis la même chose que vous tous et toutes. J'ai vu les affiches dans Paris. J'ai vu hier l'annonce à la Tour Eiffel. J'écoute ce matin toutes vos informations et je ne fais que me réjouir. Voilà.
Avec nous aussi, on va se réjouir en musique avec Céline Dion, donc concert RTL, 10 concerts entre septembre et octobre, donc il faut se préinscrire sur son site à elle d'abord, CélineDion.com.
Alors les places ne sont pas si chères que ça, 89 à 289 euros,
c'est un investissement,
mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas les tarifs américains, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bord.
Encore 10 soirs. Merci Benjamin Lecoge. Merci Thomas Joly. Et puis merci en anglais aussi Céline Dion.
On l'embrasse. Alors là, c'est en français, je crois.
À moins que j'ai appris à parler anglais si facilement pendant l'interview.
Là. Ça me dit quelque chose.
Un bateau, non?
Un bateau.
Istanbul, non?
Une bicoque.
La question à 1 million de dollars, il y aura Jean-Jacques Goldman qui va venir chanter avec elle ou pas?
Non.
Comment ça, non?
Vous imaginez que Jean-Jacques Goldman vienne, oui. Et là, ça va donc... Enfin, si jamais il vient, ça va tuer tout le retour. C'est-à-dire qu'on ne va parler que de ça. L'idée, c'est que ce soit Céline.
Hommage et dessert.
Peut-être le dernier soir.
Mais il n'est jamais venu sur scène avec elle sur la tournée d'avant, même quand René est mort. Donc, il n'y a pas de raison que là, il vienne.
À demain, Thomas.
On jusque-là.
Merci.
Should have called you first, but I was dying to get to you. I was screaming while I drove along the street, run ahead, yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. You scream up for you, watch just burning me up inside. We'll be right back.
Is that all right? Is that all right?